Dans ce journal, on vous donnera des nouvelles des grèves et des protocoles d'accord en attente, de la SOMAC qui doit quitter son terrain dans quelques jours, et de sport, bien sûr, avec Kaoli Vast de retour au Fénois. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence, Lucie, par des nouvelles du front social.
Oui, des protocoles de fin de conflit étaient annoncés ce week-end chez ADT en grève depuis près d'un mois et chez les prestataires de sûreté en grève depuis 20 jours. Mais malgré d'intenses négociations, des compromis trouvés sur l'essentiel des revendications, voire des documents finalisés, aucune signature n'a finalement eu lieu hier. Dans les sociétés de sûreté, les syndicats attendaient le retour d'un des dirigeants. Vincent Dubois doit rentrer des Marquises aujourd'hui. Chez Atia et moi, le syndicat moteur du mouvement. On évoquait hier une possible signature du protocole dès son retour, mais d'autres militants rappelaient que rien n'était encore fait. Au cœur des discussions dans ces sociétés, le 13e mois. Et chez ADT, des projets de rédaction de protocoles ont été échangés tout le week-end. Malgré une ultime réunion dans la soirée hier, rien n'a été signé. Là aussi, on espère un accord aujourd'hui. Salaires et statuts sont au centre des discussions, mais c'est aussi la répartition des compétences entre les directions d'ATT et notamment la place de la direction des ressources humaines qui sont en discussion. Pour les syndicats, l'accord doit donc être négocié à la virgule près.
Du côté des bus, la grève n'est pas pour aujourd'hui, mais elle pourrait seulement être reportée.
La rencontre avec les responsables syndicaux du transport terrestre et la direction de RTCT n'a pas permis d'avancer sur le fond des revendications, mais elle a permis d'établir que le préavis déposé mardi n'était pas conforme à la réglementation. Il n'y avait pas les 5 jours ouvrés de délai comme le prévoit le Code du travail. La grève est donc évitée ce lundi, mais ce n'est que partie remise. Un nouveau préavis doit être déposé rapidement. Les syndicats veulent discuter des conditions de travail, de la sécurité et de la convention collective.
On parle d'un compte à rebours qui va bientôt prendre fin.
Oui, la SOMAC doit quitter le site de Titioro dans 10 jours. Le distributeur de matériaux et d'outillage avait été déclaré occupant sans droit ni titre du terrain par la cour d'appel en avril dernier. Ce sont les propriétaires du terrain qui avaient saisi la justice après un conflit de loyer qui s'est envenimé. 90 salariés risquent de perdre leur emploi. Les 4 mois laissés à la SOMAC pour partir arrivent à échéance le 27 août. Et pourtant, dans les rangs de la SOMAC, on se dit plutôt rassuré. La direction aurait trouvé des solutions, disent les employés. Ils parlent de nouvelles négociations avec les propriétaires fonciers ou de recours qui pourraient éviter l'expulsion. Une sérénité qui laisse perplexe quand on interroge l'avocat des propriétaires fonciers.
Et oui, car Maître Hussang est très clair, il n'y a pas eu de négociation entre le patron de la SOMAC, Quito Brown Ortega, et ses bailleurs, encore moins d'accord, aucune évolution en fait depuis le mois d'avril dernier. Le 28 août, la société civile MCF de la famille Shinfo devrait bien demander le départ de la SOMAC par voie d'huissier et le déclenchement des astreintes de 100 000 francs par jour qui avaient été décidées par la cour d'appel. Il y a tout de même un dernier espoir juridique pour le distributeur de matériaux, un pourvoi en cassation a bien été formé, mais son issue est très incertaine et ce recours n'est pas suspensif de la procédure d'expulsion, voire même conditionné, sauf exception, à l'application de la décision de la cour d'appel. Il faut aussi noter que Quito Brown Ortega publie toujours régulièrement des annonces pour chercher un autre terrain de 12 à 15 000 m² si possible en zone urbaine, mais aucun déménagement n'est pour l'instant lancé du côté de Titioro.
Et si les propriétaires du terrain voulaient vraiment faire expulser la SOMAC, ils devraient demander le concours de la force publique et donc obtenir la signature du OSER. Une décision pas si facile vu le nombre d'emplois en jeu. Et pour l'instant, la société MCF de la famille Shinfo a seulement lancé une procédure pour faire estimer le coût de remise aux normes des bâtiments sur le terrain et faire chiffrer son préjudice en tant que propriétaire.
On reste en justice avec cette nouvelle arrivée.
Oui, celle du nouveau procureur général près de la cour d'appel de Papeete. Frédéric Bennett Chambellan va prendre ses fonctions le 2 septembre. Une première expérience en Outre-mer pour le successeur de Thomas Pison, qui compte suivre la ligne de la politique pénale en vigueur avec la lutte contre les violences intrafamiliales, les stupéfiants, les infractions routières et la probité et à l'environnement comme priorité. Quant aux tensions au sein du palais, il précise ne pas être le deus ex machina qui peut tout régler. Anecdote intéressante, il est l'arrière-petit-fils du commandant Maxime d'Estremo. Le célèbre officier de marine était parvenu à tenir à distance 2 croiseurs allemands au large de Papeete en 1914. Et ce père de 4 enfants compte déjà près de 40 années de carrière en magistrature et en préfectorale. Il se présente comme animé par des valeurs de prudence, de modestie, d'humilité, de transparence, de loyauté et de collectif.
On a des nouvelles de Kaoli Vast, Lucie.
Oui, le médaillé d'or des Jeux Olympiques est revenu sur sa victoire et son voyage à Paris. Il a reçu la presse samedi matin au centre technique de la Fédération Tahitienne de Surf de Popoti à Papara. Une célébrité surprise qui lui permet de rencontrer d'autres athlètes de haut niveau, mais également d'aller à des endroits où il n'aurait jamais cru se retrouver. On a notamment vu une photo de la finale de basket où il était aux côtés de Léon Marchand, Teddy Riner et Antoine Dupont. Il s'est dit étonné d'être reconnu dans la rue à Paris, de voir cet enthousiasme pour le surf et la fascination en particulier pour la Polynésie.
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde qui avait suivi, qui était là à supporter, et de voir autant de personnes me reconnaître dans la rue. Déjà, moi, c'est pas, personne ne me connaît, donc arrivé là-bas, tout le monde me demandait « Ah, Kaoli, c'est toi le surfeur ?» et tout. J'étais « Ah, ok. » Je ne savais pas, et c'était magnifique de voir ça, et un accueil de fou, et en fait, c'était que des surprises à chaque fois. Moi, je suis arrivé, j'avais aucun planning, ils avaient déjà à peu près tout préparé, mon agent, mon père et tout, et donc j'ai enchaîné les médias, j'ai enchaîné le Club France, moi j'ai découvert tout ça, c'était que des trucs magnifiques que je vivrais peut-être plus jamais, donc c'était juste incroyable.
Il est également revenu sur la compétition en elle-même, notamment son duel avec Johan Duru, une série difficile à vivre mais dans laquelle ils ont tout donné, et bien évidemment les deux belles vagues de sa finale qui lui ont permis de décrocher l'or olympique, mais rien du podium du PK0 au multiples ovations métropolitaines ne semblent avoir fait varier son état d'esprit. Ces moments extraordinaires l'ont simplement boosté pour la suite et ses objectifs, intégrer l'ECT et devenir champion du monde. Il faudra donc faire de très bons résultats dans les prochaines étapes au Portugal fin septembre et au Brésil en octobre.
Je sais même pas combien je suis au classement tellement j'ai pas de résultats pour l'instant. Mais si je fais de bons résultats, je re-regarderai mon seeding dans le truc et on verra d'ici là. Je sais que je marche mieux quand j'ai un objectif, mais si l'objectif c'est d'essayer déjà de faire une demi, c'est ça. Après maintenant les calculs, les machins, les trucs, papa il est assez fort pour ça. Mais en tout cas, voilà, hit by hit et déjà essayer de redescendre et voilà, de me bien concentrer dans le style de vague qui va falloir surfer. Un peu plus pourri, un peu plus compliqué, avec un peu plus de monde.
Et donc redescendre, comme il le dit, et reprendre les entraînements sérieusement. Il devra d'ailleurs retrouver Vahine Fiero, la championne de Huaine, d'ailleurs bien positionnée pour espérer une qualification sur le CT cette année. Mais elle doit aussi se remettre de ses jeux. Elle avait malheureusement été sortie trop tôt de la compétition.
Je sais que c'est compliqué et que moi, ça me rend aussi triste qu'elle. Je sais que c'est hyper dur à surmonter ça, mais en tout cas, j'ai envoyé des messages. Je lui laisse le temps de se ressaisir. De toute façon, elle va se ressaisir très vite, je sais. Et quand elle aura un moment, elle m'appellera, mais voilà, hâte de reprendre les entraînements avec elle et je sais qu'elle va se qualifier à la fin de l'année. Là, c'est juste un moment assez compliqué pour tout le monde, mais on lâche rien et on va mettre la bonne énergie pour elle pour se qualifier.
Et Kaoli Vast ne s'est pas étendu sur la polémique d'il y a quelques jours concernant Hira Terina Tofa. Il aurait évidemment aimé que tout le monde puisse venir à Paris fêter les médailles, mais c'était compliqué. Aujourd'hui, il veut rester focus sur son cap. Plus que jamais, Kaoli Vast est prêt à ne rien lâcher.
On reste dans le sport et les médailles avec ces beaux résultats de la délégation de rameurs à Hawaï.
Les championnats du monde de va en vitesse, c'est en ce moment à Hilo et Tahiti compte déjà 17 titres, dont un total de 24 podiums. Loin donc devant la Nouvelle-Zélande, les États-Unis au Hawaï. Deux médailles d'or dès la première journée de compétition, puis les hommes en V6 samedi dans la catégorie élite sur 500 et 1500 mètres, en V12 également. Une autre médaille d'or en V6 chez les femmes, première place aussi chez les juniors tahitiens, chez les garçons comme chez les filles sur 500 et sur 1000 mètres. Et ce sont aussi les athlètes handisport qui ont brillé avec 3 médailles d'or et le doyen Manapamano Temayana à 80 ans qui s'empare également de l'or. Bref, une belle moisson pour les tahitiens dans de nombreuses catégories et ce n'est pas fini car la compétition continue jusqu'au 24 août.
Et on aura peut-être un autre podium à fêter bientôt.
Celui de Cédric Van et Thomas Lubin, peut-être. Alors, ils ne visent pas le podium mais un top 10 sur le championnat du monde Otilo qui se déroulera le 2 septembre prochain. Le binôme spécialiste du swimrun a commencé à s'imposer sur les courses internationales depuis l'année dernière. Ils avaient même surpris leurs adversaires lors de leur première participation au Tilo de Suède l'année dernière. Ils y retournent donc cette année et ce sera dans une quinzaine de jours. Cette course est particulièrement difficile. Elle relie les îles de Sandam et Duto en Suède et fait 70 km dont 9 km de natation en eau libre dans la mer Baltique. Après leurs bons résultats, ils sont désormais attendus.
C'est sûr que remporter une course, on passe un peu moins sous le radar avec les cadres de la discipline, et il commence à côtoyer un peu plus souvent le podium. Donc, quand on s'aligne sur une course, là, les courses à venir, vraiment les meilleurs au monde, surtout, ils sont européens. Ils savent qu'on peut peut-être jouer la victoire, au moins un podium. Pour nous, là, c'est forcément une motivation supplémentaire significative. On fait une très belle équipe ensemble. Forcément, ça nous motive pour la suite des événements et continuer à performer.
Et au-delà d'atteindre le top 10 et peut-être même de faire mieux, les deux athlètes espèrent aussi attirer l'attention du pôle swimrun de la Fédération française de triathlon et pourquoi pas entrer en équipe de France. Le résultat en Suède devrait donc être déterminant, mais ce ne sera pas facile de se faire une place dans l'élite française car malheureusement, les meilleurs de la discipline du moment sont français. Mais ce qui compte pour les deux copains, c'est aussi de profiter de ces courses.
C'est vraiment grâce au swimrun qu'on a découvert un peu cette dimension de partage avec quelqu'un des binômes qu'on n'avait pas auparavant, parce qu'on a toujours fait du triathlon et c'est un sport individuel. Alors que là, on est à partager ces moments à deux, on savoure énormément. Je dirais même que c'est la raison principale pour laquelle on fait ce sport, Thomas et moi. C'est d'abord et avant tout une expérience de vie, et partager des moments vraiment inédits avec un copain en Suède, dans des endroits, dans des paysages sublimes, épiques, pendant une compétition où voilà, on a des émotions fortes, on est vraiment performé. Ben, ça représente des moments complètement mémorables et qu'on n'oubliera jamais.
Rendez-vous donc le 2 septembre en Suède, mais le 1er septembre au soir à l'heure de Tahiti pour suivre le binôme polynésien au championnat du monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information pour la revue de presse dans quelques minutes.
Merci beaucoup Lucie, on passe à la météo sur Radio.